J'ai retenu comme lecture pour ce culte aujourd'hui un passage de l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44, et au chapitre 13, les versets 1 à 3. Jésus disait dans son enseignement: gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y jetait de l'argent. Plusieurs riches jetaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et il y jeta deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a jeté plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont jeté de leur superflu, mais elle a jeté de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction! Jésus lui répondit: vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et Jésus s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique 175, les strophes 1 et 2. Cantique 175. Je vous invite à vous lever.
Yeah.
Aujourd'hui, Seigneur, nous avons tout à apprendre de ta parole. Débarrasse-nous des explications toutes prêtes qui nous empêcheraient d'être à l'écoute de son appel. Donne-nous de la recevoir comme si nous la découvrions pour la première fois. Que par ton esprit, elle devienne bonne nouvelle pour nos vies. Mes grands-parents vivaient dans un monde où l'on ne jetait rien. Ils ne jetaient rien car ils vivaient dans un monde de pauvres et de pauvreté où tout était utilisé jusqu'au bout et où les choses qui n'étaient pas usées étaient susceptibles de recevoir un jour ou l'autre une autre utilisation. Ce monde est révolu. Aujourd'hui, tout est jetable. Les mouchoirs, la vaisselle, que sais-je encore. Jeter est entré dans les mœurs. Jeter est devenu un usage du quotidien. Vous aurez peut-être remarqué que ce verbe « jeter », « ballo »,« balein » en grec, revient à 7 reprises dans le court récit consacré à l'obol de la veuve. La foule jette dans le tronc, des riches jettent beaucoup, une veuve jette 2 petites pièces. Le Christ dit qu'elle a jeté plus que tous ceux qui jettent dans le tronc. Tous ont jeté du superflu, mais elle, elle a jeté tout ce qu'elle possédait. Alors les questions surgissent. Que faut-il jeter? Où faut-il jeter? Comment faut-il jeter? Eh bien, c'est à la lumière de ces interrogations que je vous invite aujourd'hui à relire le récit de Marc. La scène se passe à Jérusalem, au dernier jour de la vie et du ministère de Jésus, peu avant son arrestation. Jésus est monté au temple, comme il avait coutume de le faire, et sur le parvis, il enseigne. Il s'accroche d'ailleurs assez violemment avec ses adversaires, et voilà qu'il fait une pause. Et il vient s'asseoir en face du trésor du temple, à l'endroit précis où les pèlerins viennent déposer leurs offrandes. Il y a de l'argent pour les sacrifices, pour l'entretien des bâtiments, pour le financement des prêtres, des lévites et du personnel du sanctuaire. Et les fidèles d'Israël donnent. Et voilà qu'une femme arrive. Elle est veuve. Elle est le symbole même du malheur et de la dégringolade au bas de l'échelle sociale. Pauvre parmi les pauvres. Dans le tronc, nous dit l'Évangile, elle jette 2 leptes, de la très petite monnaie, une somme infinitésimale. Imaginez un paroissien qui, pour régler sa cotisation, remettrait au trésorier 2 pièces jaunes d'un centime d'euro. Jésus regarde et il commente la scène. Cette pauvre veuve a jeté plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont jeté de leur superflu, mais elle, elle a jeté de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, amen, amen, je vous le dis. Cette formule solennelle est là pour nous indiquer que ce qui vient de se passer est important pour les disciples et qu'il y a là un enseignement qui nous concerne tous. Oui, à ce moment-là, Christ a constaté, il a évalué, mais il nous laisse la liberté entière d'interpréter ce geste. L'attitude de la veuve nous concerne et c'est à chacun d'entre nous d'en tirer la leçon. Alors je vous propose maintenant 3 pistes de lecture de cet évangile. Je vous inviterai tout d'abord à admirer cette femme dans sa manière de donner. Jésus le dit, la foule se presse aux abords des troncs, il y a des riches. Plusieurs d'entre eux donnaient largement. Ils sont généreux, ils jettent avec libéralité et c'est très bien. Et puis la femme arrive. Elle a 2 pièces, elle aurait pu en garder une et jeter l'autre dans la corbeille. Elle aurait pu agir ainsi comme les riches, en prenant sur sa pauvreté comme eux ont pris sur leur abondance. Mais non, Jésus précise, elle a jeté tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est le beau geste par excellence, le geste de celui qui y met tout son cœur, tout son amour, qui donne tout. Bernard de Clairvaux a écrit « La mesure de l'amour, c'est de donner, c'est d'aimer sans mesure. » Oui, on ne peut pas aimer sans un grain de folie. Et il y a dans le geste de cette femme une dimension d'excès, de radicalité, d'authenticité totale, sans le moindre calcul, sans aucun retour sur soi. Tout donner, sans repentir, sans filet, serait-ce le secret de la vie? Alors que bien sûr, je fais tout le contraire. Épargne logement, assurance vie, retraite par capitalisation. C'est bien sûr, on nous l'a appris, il est raisonnable de garder une poire pour la soif. C'est la vertu de prudence. Mais, frères et sœurs, la véritable paix serait-elle dans le don total? Oui, la veuve nous donne à voir ce qu'est l'amour dans sa pureté absolue, dans ce qu'il peut avoir de démesuré, d'excessif. Et Paul l'a écrit dans la première lettre aux Corinthiens, « Quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne. Cela ne me sert de rien. » Oui, je vous invite, frères et sœurs, à admirer cette femme et à faire son éloge. Mais j'aimerais aussi vous proposer un autre regard, une deuxième piste en quelque sorte. Je vous invite maintenant à vous indigner, car je constate ceci dans le même temps. Jésus ne nous propose pas cette femme en modèle. Il n'invite pas à imiter la veuve. Il n'est pas dit qu'il la regarde et qu'il se mette à l'aimer. Il ne recommande pas de faire de même. Il ne précise pas qu'elle serait proche du royaume de Dieu. Oui, il est possible d'explorer un autre chemin que celui de l'éloge. J'emprunterai la piste de la pitié et de l'indignation. Oui, je vous invite maintenant à prendre cette femme en pitié. Marc a placé ce court récit entre une invective contre les scribes et l'annonce de la destruction du temple. Jésus, en effet, vient de dénoncer tous ces religieux hypocrites qui se servent de Dieu pour leur propre gloire. Et il a dit notamment qu'ils dévorent les maisons des veuves. Comment alors le spectacle de cette femme pourrait-il le réjouir? Jésus vient également de chasser les marchands du temple, tous ceux qui ont fait de la maison de son père une officine de négoce et de trafic. Jésus n'arrête pas de critiquer le temple et son économie, qu'il remet en cause de manière radicale. Et on peut s'indigner de voir comment est exploitée la générosité et la droiture d'une femme dont la pauvreté, finalement, va engraisser des bigots, pour ne pas dire des tartuffes. Pourquoi se fait-il, en effet, que la religion et le commerce fassent si bon ménage, en fin de compte? Pourquoi les religieux sont-ils si habiles à faire de l'argent avec le divin? La réforme, initiée par Martin Luther, a commencé, ne l'oublions pas, par un rejet des indulgences, ce commerce de la grâce de Dieu, une grâce absolument gratuite, mais que l'Église de son temps s'était mise à tarifer. Oui, Jésus nous invite à nous scandaliser d'un système religieux qui exploite une pauvre femme. Ce don fait à un temple géré par des malhonnêtes a quelque chose de dérisoire et de répulsif. Cette veuve, elle est en train de se faire avoir. Sa piété l'aveugle, et ça serait bien plutôt aux autorités du temple de lui venir en aide et de rendre ainsi à Dieu un culte en esprit et en vérité. Oui, chers amis, ce récit évangélique est aussi une invitation au discernement. Méfions-nous de la religion qui peut très facilement devenir un système d'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, il y a dans la parole de Jésus une ironie douloureuse, lui qui sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes, et il met en valeur le geste d'une pauvresse qui accomplit une démarche coûteuse et inutile en faveur d'un système qu'il condamne et dont il annonce déjà la fin. Car ce temple dont les disciples admirent les pierres et la construction, il va bientôt être détruit, nous dit-il. Et je voudrais maintenant explorer une troisième et dernière piste, en vous invitant à porter votre regard sur Jésus lui-même. Car ce récit comporte une dimension de révélation. Par son geste, en effet, cette femme révèle à Jésus sa propre vocation. Jésus la regarde. Elle a donné toute sa vie. Et le Christ, alors, reconnaît en elle sa propre destinée. Lui aussi, dans quelques heures, entre Gethsémané et Golgotha, il va tout donner. Il va prendre de son indigence et il va livrer sa vie. Jésus n'a pas à donner cette femme en modèle, car c'est lui qui va l'imiter. Le don total de la veuve symbolise et annonce de manière prophétique le don que Jésus va accomplir sur la croix. Jésus, à son tour, va jeter sa vie, toute sa vie, dans la béance de la mort, sans calcul, sans retour, sans autre assurance que la promesse de vie que Dieu adresse gratuitement à tout homme venant en ce monde. Oui, le don de la veuve n'est pas raisonnable, pas plus que celui de Jésus ne paraissait raisonnable à Pierre, qui s'est mis à faire des reproches violents à son maître lorsque celui-ci a évoqué sa passion à venir. Oui, à ce point, frères et sœurs, nous n'avons rien à imiter. Jésus a tout donné pour tous et pour toujours. Et à cette aune, toutes nos œuvres sont dérisoires. Mais une question se pose alors. Que va-t-il se passer pour la veuve lorsqu'elle quittera le temple? Qu'adviendra-t-il de Jésus lorsqu'il aura tout donné? Qu'adviendra-t-il de nous autres qui avons placé notre confiance en lui? Ce court récit, en fin de compte, il éclaire le chemin du Christ. Il éclaire aussi notre propre chemin. Il fonctionne à plusieurs niveaux. Il fait l'éloge des gestes vrais. Il nous invite à l'authenticité. Il dénonce les systèmes religieux aliénants qui n'ont rien à voir avec la foi. Il interprète le geste de la veuve comme l'annonce d'une vie donnée. Voyez-vous, il nous appelle à jeter notre confiance en Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, qui s'est anéanti jusque la mort et la mort sur la croix, mais que Dieu a exalté pour lui confier le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen.